Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie concernant l'un des tout premiers premiers ministres australiens, Alfred Deakin. On s'intéresse dans cet épisode à la partie de sa vie durant laquelle il a été au gouvernement et même plus tard premier ministre, une période durant laquelle il a mis en place énormément d'institutions qui sont pour la plupart toujours en service aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors donc, vous l'avez bien expliqué, cette fédération au final ne se construit pas contre l'Empire britannique, elle finit par voir le jour le 1er janvier 1901, et à cette occasion, ce n'est donc pas Deakin, mais Barton qui devient le premier Premier ministre. Néanmoins, Alfred Deakin fait partie de ce premier gouvernement en tant que Attorney General, donc c'est en gros le ministre de la Justice, et à ce titre, il fait voter l'un des premiers textes adoptés par cette nouvelle Australie. C'est la fameuse politique de l'Australie blanche, et pour défendre ce texte au Parlement, il tient un discours particulièrement raciste.
Oui, oui, tout à fait. Ce qui est important de rappeler, c'est que il n'est pas le seul, et que quand on pense à la fédération de l'Australie, les sujets majeurs à l'époque, ce sont les barrières douanières entre colonies, et donc une fédération permettrait de les abaisser pour qu'en fait tout le pays, l'Australie, bénéficie du libre-échange à l'intérieur, mais avec des barrières tarifaires à l'extérieur pour développer l'industrie australienne. Donc c'est assez intelligent. Donc du point de vue australien, trois sujets importants, les barrières douanières, l'immigration et la défense, en fait, parce que au lieu d'être des petites colonies défendues, on va pouvoir avoir une armée nationale. Donc les premières lois, mais vraiment les premiers actes, législatifs du Parlement fédéral australien, c'est de mettre en place, comme vous l'avez rappelé, la politique de l'Australie blanche. Et pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent, c'est très simple. Si vous n'êtes pas blanc, vous ne rentrez pas en Australie. C'est éminemment raciste. C'est pas le seul pays à l'époque, hein. Bon, la ségrégation aux États-Unis fait rage, l'Afrique du Sud, enfin, il y a beaucoup de pays. L'Europe va bientôt enclencher les tristes années que l'on connaît d'entre-deux-guerres. Deakin, en fait, déclare au Parlement vouloir prohiber toute immigration de couleur et parle explicitement d'assurer une Australie blanche. Parce que fondamentalement, les Australiens se voient comme des Britanniques et des Britanniques encore plus purs que les Britanniques eux-mêmes. Et donc, c'est une terminologie raciste, hein. Je ne prends pas parti. Ces mots de pureté sont des mots de l'époque qui sont bien évidemment horribles et totalement racistes. Parce qu'à l'époque, en Grande-Bretagne, commencent à émigrer des migrants de toutes les parties de l'Empire. Et en fait, ce que veulent certains Australiens, en fait la majorité des Australiens à l'époque, c'est de fermer la porte aux travailleurs chinois ou d'Asie ou indiens. Et donc conserver une Australie physiquement blanche. Et bien évidemment, ce qui est valable à l'extérieur est valable à l'intérieur. L'exclusion raciale qu'il veut imposer à l'extérieur, elle est aussi imposée à l'intérieur aux aborigènes. Donc, effectivement, Deakin est un des grands pères fondateurs australiens, mais comme beaucoup de personnages historiques, c'est jamais tout blanc ou tout noir. On peut parler de Jefferson aux États-Unis aussi. Voilà. Donc, il faut pas du tout l'héroïser. Il faut le comprendre dans son contexte. C'est un homme britannique, blanc, qui est attaché à l'Empire et qui veut que son pays se développe, mais d'une façon, d'une culture britannique, voilà, si vous voulez.
Et d'ailleurs, bah, pour montrer que son bilan est contrasté et qu'il n'y a pas que du négatif dans tout ça, on l'a dit, donc on a un nouvel État fédéral qui ne part pas complètement de rien, puisque bien sûr, il y avait déjà des institutions qui existaient au niveau des différentes colonies, mais eh bien, il faut bien poser les bases de ce nouvel État fédéral, et Alfred Deakin y va participer à la création, vous le disiez, parmi les priorités, il y avait celle de constituer une armée nationale. On a aussi la Haute Cour de justice, qui est encore aujourd'hui la plus haute instance judiciaire du pays, un service public fédéral, et puis, alors qu'on l'a dit, il y a une politique ouvertement raciste qui est mise en place, à l'inverse, il y a quelque chose qui est sans doute une avancée parmi les plus progressistes qui puissent, et l'Australie est la première à le faire. Elle donne le droit de vote aux femmes.
Oui, avec le Commonwealth Franchise Act de 1902. C'est un droit de vote et d'éligibilité, ce qui est très important également, hein, pour la majorité des femmes, mais on va retrancher assez rapidement des femmes blanches. Donc, sont exclues d'office les aborigènes et les femmes dites non européennes. Donc, il y a une restriction raciale très importante dès le début. Cependant, effectivement, l'Australie est le premier pays à accorder simultanément les droits d'éligibilité, pardon, et de vote aux femmes au niveau national. Hein, vous allez trouver des colonies ou des provinces ou des États dans d'autres pays, ou même en Australie, l'Australie du Sud par exemple, où le droit de vote pour les femmes existait déjà, mais au niveau national et fédéral, effectivement, c'est un pas en avant. Et là-dessus, il est important de rappeler qu'en fait, l'Australie se fédère et se conçoit, se crée comme nouveau pays, enfin, de leur point de vue, parce qu'il y a quand même 60 000 ans de peuplement aborigène avant. Mais si on se place du point de vue de la création de l'Australie blanche moderne, c'est pas 1789, c'est pas la Révolution américaine. Ça arrive beaucoup plus tard et après tout un tas d'expériences politiques, constitutionnelles et sociales. Donc, si vous voulez, ils ont le bénéfice de pouvoir regarder ailleurs en se disant, ah ben ça fonctionne, ça n'a pas fonctionné. Et ils peuvent proposer des innovations à la fois sur le droit des femmes, mais aussi sur le droit du travail, par exemple. Et sur tout plein d'institutions publiques qui sont créées pour soutenir ce nouveau gouvernement fédéral. Donc il y a le Public Service Act de 1902 qui crée une fonction publique fédérale. Si vous avez un État fédéral, il faut bien des fonctionnaires fédéraux également. Et donc les structures de la nouvelle Australie et de l'Australie dans laquelle on vit tous les deux, Grégory et moi, elles sont posées à ce moment-là, au moment de la fédération où tout est à créer. Il faut créer une haute cour, il faut créer une santé publique nationale, si vous voulez, un bureau des statistiques et de la météorologie. Enfin, il faut tout créer, il faut tout mettre en œuvre. Alors, parfois, c'est l'extension de politiques qui ont fonctionné au niveau des anciennes colonies devenues États. D'autres fois, c'est vraiment on s'assied, on crée des nouvelles politiques, des nouvelles guidelines, des nouveaux process, et puis on met en place un État fédéral. C'est assez incroyable, en fait, de se dire qu'à un moment donné, l'État fédéral australien n'existait pas. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Eddie Keane a eu une place centrale dans l'établissement de ces législations en tant que, si vous voulez, ministre de la Justice.
Et sa marque, il va peut-être encore plus l'imprimer sur l'État australien moderne à partir du moment où il devient Premier ministre. Pour la première fois, ce sera en 1903. Il prendra la place donc de celui qui était un ami, Edward Barton. C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'épisode sur lui, seulement 2 années. On s'est plutôt intéressé à son successeur. Et au-delà des institutions et des réformes, enfin c'est même pas des réformes puisqu'on part de rien, qu'il faut mettre en place, il faut dire que cette époque elle est quand même assez tumultueuse. L'une des raisons c'est que il y a trois forces politiques de force à peu près égales à l'époque. Ça rappelle d'autres périodes sous d'autres latitudes. Et donc en Australie au début du XXe siècle, c'est les trois grands partis. C'est d'un côté le parti protectionniste. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la politique défendue par Alfred Deakin, et c'est le leader de ce parti. Il y a le parti qui, sur le papier, a l'air d'être son exact opposé, les libre-échangistes. Et puis, il y a le parti travailliste qui, à l'époque, est déjà là. Et Alfred Deakin, il voit bien que tout ça, bah, c'est un petit peu compliqué de fonctionner. Les gouvernements sont renversés très facilement parce que personne n'a de majorité absolue. Et donc très vite, il plaide et il défend l'idée que l'Australie, c'est un système politique qui, comme en Angleterre, puisqu'il s'inspire directement de ce modèle-là, pour fonctionner correctement, il faut qu'il repose sur un système bipartisan, c'est-à-dire donc deux grands partis qui s'alternent au pouvoir.
Oui, alors, il y a beaucoup de choses à expliquer là. Ce qui est fascinant, c'est que le Parlement australien, il est calqué sur le Parlement britannique, le système de Westminster, où vous avez généralement un gouvernement et son opposition. Et c'est assez rare de voir trois ou quatre grandes parties se partager le Parlement. En l'occurrence, c'est ce qui se passe en Australie parce que vous avez des gens qui sont divisés sur un certain nombre de sujets. Ce qui fait que vous avez un parlement qui doit fonctionner sur normalement une bipolarité et qui se retrouve avec trois gros partis, un peu ce qu'on voit en France en ce moment avec un éclatement de l'Assemblée nationale, ce qui rend toute coalition assez faible et non pérenne. Et donc, si vous voulez, le début, les 10 premières années des gouvernements australiens, c'est un peu comme la 4e République en France. Vous allez avoir un gouvernement qui va durer 200 jours ou puis un an et demi. Enfin, ça tombe assez rapidement. Et donc, ce qu'il va essayer de faire, Dickin, et ce qu'il va faire de façon assez efficace, c'est d'assembler ce qu'on appellerait aujourd'hui la droite contre la gauche. Parce qu'à l'époque, lui, il est donc protectionniste, mais vous pouvez être protectionniste de gauche ou protectionniste de droite. C'est pas structurant que de vouloir des tarifs douaniers, si vous voulez, en termes politiques, sociales ou autres. Et donc, c'est que Dickin se dit, bon, si on veut un pays stable, il faut un gouvernement stable qui ne puisse pas être renversé. Et donc, il faut essayer de travailler vers cette bipolarité. Donc, il s'associe avec d'autres personnes qui sont effectivement sur le papier, comme vous l'avez rappelé, ennemis, puisque les protectionnistes doivent s'allier aux anti-protectionnistes, donc on se demande comment ils travaillent. Mais en fait, ce qui les réunit, c'est la peur de la gauche qui s'implante de plus en plus et qui est de plus en plus efficace. Il faut rappeler que le début du XXe siècle, c'est quand même le grand moment, des mouvements de gauche et de la peur, des ouvriers, hein, pour les gens qui ont du bien. Et donc, protectionnistes et anti-protectionnistes se disent, qu'est-ce qui est plus important, les barrières douanières ou la paix sociale? Et donc, ils s'allient pour pouvoir avoir ce contre-pouvoir contre une gauche qui émerge en Australie et qui est forte. Le troisième premier ministre australien est de gauche, Chris Watson. Le cinquième aussi, enfin le cinquième, septième mais cinquième personne, Andrew Fisher. Donc, on voit l'émergence du parti travailliste, du parti de gauche d'aujourd'hui, dès le début de la fédération australienne.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On revient dans quelques jours pour entendre la dernière partie de cet épisode consacré à Alfred Deakin. On verra qu'il fut l'un des tout premiers à porter l'idée d'une union des droites face aux travaillistes qui, eux, sont unis dès leurs origines. Et on verra eh bien que cette union ne fonctionnera pas et qu'elle marquera quasiment la fin de sa carrière politique. Mais tout ça, eh bien on en reparlera d'ici quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.